Bienvenue dans notre nouvelle émission Paroles d'anciens élèves.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre web radio préférée, On Aerio Radio, la radio du collège Aerio.
Dans cette nouvelle série de podcasts, les anciens élèves du collège Aerio viennent témoigner sur leur vie professionnelle afin de donner des pistes d'orientation aux élèves actuels.
Il répondra donc à nos questions sur son métier ou futur métier, nous parlera de son orientation et nous fera part de son expérience professionnelle. Une virgule sonore précédera chaque question.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Thibaut Soal, je suis le secrétaire général du collège Édouard Aerio et j'ai été un ancien élève ici, il y a quelques années.
À quelle période avez-vous été élève au collège Aerio ?
J'ai été élève entre 2009 et 2013, parce que mon brevet en 2013. C'est un petit moment, mais il y a des professeurs qui étaient là à l'époque qui sont toujours là aujourd'hui.
Quel élève étiez-vous ?
Je dirais que j'étais un élève plutôt discret, qui ne faisait pas plus de vagues que ça, mais qui appréciait pouvoir s'investir dans divers comme ce que vous faites aujourd'hui, finalement, avec la web radio. Alors, il n'y avait pas la web radio à l'époque, mais il y avait déjà les éco-délégués, notamment, qui à l'époque étaient portés par la CPE, Madame Gary. Mais ça fait plaisir de revenir ici aujourd'hui et de voir qu'il y a toujours autant d'enseignants et de personnel éducatif qui sont impliqués et qui permettent à des élèves comme vous de vivre des choses comme celle-là.
Quel souvenir gardez-vous du collège Aerio ?
Moi, je garde un assez bon souvenir du collège Édouard Aerio. Je me suis bien amusé dans les implications extra en dehors des cours que j'ai pu avoir, plutôt d'assez bons souvenirs aussi de l'équipe enseignante. Ce serait faux de dire que tout était génial et que tout était parfait des deux côtés, mais c'est je pense un bel établissement dans lequel il y a une équipe enseignante qui est engagée, comme je le disais avant, et je le vois aujourd'hui d'un autre côté. Je pense qu'on reviendra un petit peu après sur mon travail actuel, mais de l'autre côté du mur finalement. Administratif et c'est agréable à voir. J'ai un autre souvenir du collège Édouard Aerio que certains d'entre vous ont connu, que les travaux sont quand même encore très récents. C'est un établissement qui commençait à être un petit peu fatigué d'un point de vue bâtimentaire. C'est une chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir vivre votre scolarité dans un établissement dans lequel le conseil départemental a investi autant et vous permet de vivre pleinement vos apprentissages.
Quel a été votre parcours scolaire après votre passage à Aerio ?
Après mon passage à Aerio, je suis allé au lycée de secteur, qui est le lycée Jean de Beauce, en seconde générale. Je n'avais pas plus d'idées que ce que je voulais faire, de ce que je voulais faire après. Donc je suis allé dans la voie générale, entre guillemets. J'ai fait un bac scientifique. Que j'ai eu en 2016. J'ai fait d'autres études après, mais je crois qu'on y reviendra après.
Avez-vous choisi de faire une formation en alternance ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
Alors, je n'ai pas fait de formation en alternance au lycée, parce que ce que je disais, c'est que j'ai fait une filière générale. Qui ne se vit pas en alternance. En revanche, j'ai fait une année en alternance plus tard, pendant mes études supérieures, à un moment où j'avais le choix de le faire. Ce n'était pas ma formation qui me l'imposait. Et c'est un choix que j'ai fait parce que je commençais à en avoir un petit peu assez d'être sur les bancs de l'école, à apprendre plein de choses, certes, mais pas voir la façon dont ça pouvait se concrétiser réellement dans une entreprise, dans une administration. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une année d'alternance dans une très grande entreprise qui s'appelle Thales, qui fabrique des ordinateurs et des calculateurs pour avions.
Avez-vous fait des études supérieures, chez oui, lesquelles?
J'ai fait des études supérieures, oui, après le bac. Pas forcément très linéaire, parce que j'étais un petit peu coincé à la fin de ma terminale. Je ne savais pas non plus exactement ce que je voulais faire concrètement, et comme filière, et comme métier par la suite. Donc je suis allé en école d'ingénieur. Je fais une année d'école d'ingénieur. Donc ça, c'était avant mon alternance, pour le coup. Et en fait, ce que j'ai vécu là-bas, alors, c'était une école d'ingénieur, c'est grossièrement des maths, de la physique, des maths, de la physique, des maths, de la physique, dans des grandes salles, dans des grands amphithéâtres, pas que, mais en partie, à un niveau très élevé. Et il y a eu un moment où j'en ai eu assez d'être sur les bancs de l'école à faire des maths et des maths et des maths. Donc je n'ai pas poursuivi dans cette voie. Et j'ai été chercher une filière un peu plus concrète. Alors, c'était un an après le bac, donc j'avais eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Et donc j'ai fait une formation plus concrète, un BTS, ça s'appelle, dans le secteur. Alors, les BTS, c'est plus fermé pour le coup. Donc, il y en a en compta, il y en a en électrotechnique. Et donc moi, j'en ai fait un qui est pas très connu, puisqu'il n'y en a pas beaucoup en France, il est assez sélectif. C'est un BTS aéronautique. Donc l'aéronautique, c'est tout ce qui est les avions, notamment. On peut élargir un petit peu à l'aérospatial si on veut, mais le mien était très centré sur l'aéronautique. Notamment sur ce qui est la partie. Alors, c'est pas un BTS où on va apprendre à piloter des avions, c'est pas un BTS où on va apprendre à fabriquer un avion, c'est pas un diplôme qui forme des opérateurs qui vont soit réparer, soit fabriquer des avions. C'est un diplôme qui va former des techniciens supérieurs sur ce qui va être l'organisation de la production d'un avion. Un avion, c'est composé de centaines de milliers de pièces, donc forcément il y a toute une planification très complexe derrière. Et une autre partie, sur la partie maintenance, un avion ça coûte des dizaines voire des centaines de millions d'euros à l'achat. Un avion qui est au sol, ça ne rapporte pas d'argent à une compagnie, donc il y a un enjeu à organiser les choses, à planifier les choses pour que ce soit le plus souvent en vol et le moins souvent en maintenance possible. Le tout avec des contraintes de sécurité et une rigueur très importante. Et donc c'est au cours de cette formation, donc la deuxième année, que j'ai été en alternance chez Thales, que je disais tout à l'heure, donc dans un service qui avait pour travail de contrôler des pièces diverses et variées, de la vis à la carte électronique, en passant par des écrans d'affichage très, très précis, qui n'ont pas le droit de tomber en panne à 12 000 mètres d'altitude. Donc voilà. À la fin de ce BTS, j'étais pas convaincu d'avoir. J'ai fait ce BTS parce que j'avais une forme de passion quand même pour l'aéronautique, mais je n'étais pas convaincu de vouloir passer ma vie dans une entreprise à fabriquer ou gérer de la maintenance aéronautique. Donc j'ai encore un peu tâté, j'ai fait une année à l'université, une fac de sciences, et suite à quoi j'ai trouvé un métier, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle.
Avez-vous facilement choisi votre orientation professionnelle?
Alors, on l'a déjà un petit peu compris au travers de mes précédentes réponses. Non. Pas vraiment, parce que j'ai toujours resté assez curieux de beaucoup de choses. Alors oui, j'adorais les avions, j'adorais les voir voler, les voir au sol, mais il n'y avait pas que ça. J'étais aussi impliqué dans d'autres associations, alors plus jeune en tant que jeune dans des associations où j'avais la chance de pouvoir vivre de monter des projets avec d'autres jeunes, dans des équipes de jeunes, partir en séjour l'été ou à d'autres moments en ayant monté nos projets de séjour, ces choses-là. Ça m'a beaucoup appris sur la vie en équipe, sur la notion de monter un projet, de porter un projet, alors, sur les aspects financiers, sur les aspects logistiques, sur toutes ces choses-là. Et derrière, j'étais très engagé bénévolement, une fois devenu adulte dans cette association, à accompagner d'autres jeunes et à permettre à d'autres jeunes de grandir de cette façon-là. Ça m'a beaucoup aidé à mettre le doigt sur le fait que j'avais envie d'être au service de quelque chose, de service de beaucoup de la jeunesse, mais de l'humain, et plus que de la machine, entre guillemets. C'est pour ça que je ne me suis pas forcément retrouvé dans ces métiers de l'aéronautique, même s'ils sont techniquement passionnants.
Avez-vous exercé plusieurs métiers? Si oui, lesquels?
Alors oui, j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai passé une année chez Thales, c'était en alternance, c'était un bon deux tiers de l'année en entreprise et un tiers à l'école, donc c'était vraiment quand même une grosse année, en tant que technicien aéronautique. Et donc ensuite, ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait une année à l'université, le Covid est arrivé, premier confinement, donc un petit peu difficile de trouver du travail en cette période, mais j'ai eu la chance de trouver un métier de logisticien, de coordinateur logistique, donc entre autres dans l'association dans laquelle j'avais pu être engagé par le passé. Et donc j'étais en charge d'organiser le déploiement du matériel sur un site événementiel qu'on louait à divers clients. Donc ça va d'un petit groupe de 20 personnes qui viennent juste un week-end à des événements à 10, 12 000 personnes qui viennent pour 3, 4, 5 jours. Et donc il y a toute une organisation derrière logistique, technique, sécuritaire à traiter. Donc extrêmement polyvalent à travailler avec des salariés, des bénévoles. Une expérience très riche. Après quelques années, j'ai changé de métier, pour plein de raisons personnelles. Et j'ai été responsable de la gestion des stocks d'une entreprise qui fabrique des machines agricoles. Des accessoires de tracteurs, faire simple. Toujours sur une dimension logistique et organisationnelle, de planifier la gestion des flux de marchandises, et pas tant financiers pour le coup, mais de marchandises, avec par contre, en revanche, beaucoup plus de résultats financiers attendus que dans l'associatif. Donc, j'ai fait ça pendant un an, et ensuite j'ai eu une expérience sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc j'ai été en charge du traçage. Donc il y a des gens qui ont fait des plans très précis. Et derrière, il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent implanter les infrastructures. Et donc il y avait tout le lien à faire entre le plan et la réalité de tout le site cérémonie, de la première cérémonie d'ouverture. Donc sur les 6 km de scène, fois 2, ça fait 12, sur les deux côtés. Donc j'ai vécu ça l'été dernier. En parallèle, j'ai été intendant sur des séjours du Service National Universel. Donc, vous avez peut-être entendu parler, ou vous entendrez peut-être parler un jour. Métier qui se rapproche un petit peu plus de mon métier d'aujourd'hui.
Quel était le montant de votre premier salaire ?
Mon premier salaire en tant qu'alternant. Alors ça va, en tant qu'alternant, on n'est pas payé très cher. On ne paye pas d'impôts, mais on n'est pas payé grand-chose. Alors ça devait être un petit peu moins de 1000 euros, je dirais, en tant qu'alternant. Mon premier salaire, après, en tant qu'employé, alors, je travaillais dans l'associatif, donc ce n'était pas forcément très très bien payé. De mémoire, ça devait être 1900 euros brut. Alors après, faire attention, le brut, le net, c'est deux choses différentes. Donc notre salaire par les employeurs, ils sont versés brut. À ça, il faut enlever des cotisations sociales, la cotisation pour la retraite, la cotisation pour l'assurance chômage, un jour on se retrouve au chômage, la sécurité sociale, tout ça c'est pas gratuit. Et donc le salaire net, c'est ce qu'on finalement on va toucher sur notre compte, sur lequel on paye encore des impôts, certes. Et donc là, 1900 brut, ça devait faire à peu près 1650 euros net, quelque chose comme ça.
Quel métier exercez-vous aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, du coup, je suis secrétaire général du collège Édouard Herriot. Retour à la caisse départ, me direz-vous. Secrétaire général, c'est quoi ? C'est, si vous voulez, le bras droit du chef d'établissement sur tout ce qui n'est pas pédagogique, n'est pas en lien direct avec vous, les élèves, si vous voulez. Ça va être toute la partie comptabilité, la partie sécurité des bâtiments, des biens et des personnes, la partie maintenance, moi qui ai éteint le chauffage, tous ces aspects-là en lien avec un nombre important d'interlocuteurs institutionnels en interne au sein de l'établissement.
Quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
C'est un métier où il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, parce qu'il y a beaucoup de sujets différents à traiter, parfois sur un temps très court, mais parfois aussi sur un temps très long. C'est important de bien suivre tous ces sujets-là en parallèle sans en délaisser certains.
Difficulté de ce métier.
Les difficultés de ce métier sont surtout liées à la diversité des tâches qu'on y retrouve. Par le passé, donc dans mes précédents emplois que j'ai pu avoir, j'ai fait beaucoup de logistique, beaucoup de gestion de flux, beaucoup de gestion matérielle, fait de la maintenance, j'ai fait bâtimentaire. J'ai pas fait de comptabilité, par exemple. Donc c'est quelque chose que j'ai appris ici en arrivant au collège Édouard Herriot assez rapidement, grâce à des formations au sein de l'éducation nationale. Mais la comptabilité n'a rien à voir avec la maintenance des bâtiments. Les interactions qu'on peut avoir avec les enseignants ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on va avoir avec le chef d'établissement. Il y a un autre aspect qui est ce poste, il est en lien avec tous les interlocuteurs possibles d'un collège, que ce soit le conseil départemental, qui est propriétaire des bâtiments, qui finance le collège, qui emploie les agents d'entretien, de cuisine, de maintenance et d'accueil, les services académiques ou du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants, les intervenants extérieurs qui peuvent être amenés à venir vous rencontrer, les élèves, les parents et encore d'autres. En général, quand il y a un nouvel interlocuteur, il finit par se retrouver en lien avec le secrétaire général.
Pouvez-vous résumer en quelques mots votre rôle au sein du collège Herriot ? En trois mots, pardon.
Comptabilité, cantine, maintenance.
Travailler dans le collège où vous avez étudié, est-ce plutôt un avantage ou un inconvénient ? Expliquez pourquoi.
Un petit peu les deux à la fois. Après, je pense que ça dépend pour chacun. Moi, j'ai des bons souvenirs de mes années collège, donc c'était assez ironique, mais un plaisir de revenir ici et puis de revoir certains de mes enseignants donc, dont j'avais des bons souvenirs, pour le coup. C'est pas forcément le cas pour tous, mais moi, j'ai vu ça comme quelque chose de positif. Je pense que c'est certainement facilitant dans certaines interactions pour ceux qui sont encore là. En revanche, ça aurait pu être un inconvénient de revenir et ça aurait pu me donner un regard « Ah, c'était mieux avant ». On entend souvent cette phrase, c'était mieux avant, de dire c'était mieux avant, et du coup on va refaire comme on faisait dans mes souvenirs, qui sont forcément un petit peu biaisés, puisque je n'étais qu'un enfant, pas forcément avec une vue globale des sujets et des problématiques à traiter. Sur la partie bâtimentaire, en fait, ce collège, il a vraiment évolué, il a vraiment changé. Alors, moi, je suis arrivé juste à la fin des travaux, donc je gère les petites fins de chantier, mais... J'arrive dans un établissement qui finalement est quand même profondément différent de par sa structure. L'équipe de direction n'est plus du tout la même. Donc moi, je le vois plutôt comme beaucoup d'avantages. Après, ce n'est pas forcément une réponse à prendre pour acquis et qui est vraie pour tous et pour toutes les personnes qui pourraient être amenées à revenir au collège. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé. Les hasards de la vie m'ont mené jusqu'ici.
Comment ça se déroule le fait d'être en école d'ingénieur ?
Alors, le cursus de l'école d'ingénieur. Alors, aujourd'hui, vous dire comment on accède à une école d'ingénieur, je dirais des bêtises, parce que donc à l'époque, moi, j'ai fait un bac scientifique qui correspond, je pense, à quelque chose comme maths physique, SVT. Aujourd'hui, en choisissant les grandes options du nouveau bac, dont je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. En arrivant en école d'ingénieur, le cycle ingénieur se décompose en deux parties. Donc, une première partie qui s'appelle le cycle préparatoire, et ensuite le cycle ingénieur, pour le coup. Ça, c'est quand on fait une école d'ingénieur dite avec prépa intégrée, donc avec le cycle préparatoire intégré. Il y a aussi une voie qui consiste à aller faire une prépa dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, il y a différents types de prépa. Il y a des prépas maths, physique, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Il y en a toute une série qui sont regroupées sous le sigle CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Et à la fin de ces deux années de prépa, qui sont très très intenses, qui se déroulent au sein d'un lycée, qui ressemble plus à une prolongation du lycée, mais de façon extrêmement intense, à la fin de ces deux années, on passe des concours. Donc des concours, c'est des examens, où le but, c'est pas juste d'avoir une note et de dire « oui, tu as eu le concours », il y a un classement, et en fonction du classement, on accède ou non à certaines écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est une voie qui est finalement, entre guillemets, sans garantie, parce que c'est plus difficile. Et puis, en rentrant en prépa, on n'est pas sûr d'avoir une école d'ingénieurs. Ça nécessite beaucoup plus de travail, mais ça permet d'accéder à des écoles beaucoup plus prestigieuses. Il y a une forme de concurrence entre certains élèves, parfois, dans ces classes, donc c'est vraiment intense. L'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, la différence par rapport à une école d'ingénieur avec prépa intégrée, c'est quand on rentre en école d'ingénieur avec prépa intégrée, l'idée, c'est de valider ces années, donc... Il y a des formes d'examen, comme le brevet, si vous voulez, tous les ans, tous les 6 mois, même tous les semestres. il faut avoir une note minimale pour passer à l'étape d'après. Mais on ne quitte pas une école d'ingé à la fin de la deuxième année, il n'y a pas un concours à repasser. À la fin de la deuxième année, on va choisir une spécialisation donc en mécanique, en chimie, en toute une série de spécialisations disponibles en fonction des écoles. Forcément, on a accès à la spécialisation qu'on souhaite ou non en fonction de notre classement, mais notre place est assurée pour les cinq années et jusqu'à la fin, en fonction de nos réussites forcément, mais il n'y a pas de concours à repasser en cours de route. Donc, c'est ça la grande différence entre les écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée et les classes préparatoires aux grandes écoles. Moi, j'avais fait le choix d'aller en école d'ingénieurs avec prépa intégrée parce que je n'avais pas envie de vivre la pression de me dire « il faut que je passe un concours dans deux ans ». Maintenant, le programme des deux premières années d'une école d'ingénieurs est sensiblement le même que celui d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, je disais un petit peu de façon caricaturale tout à l'heure, maths physique à très haute échelle.
Quels conseils pouvez-vous donner aux élèves actuels du collège Herriot en ce qui concerne leur future orientation ?
Alors, je l'ai dit, moi, je n'ai pas eu un parcours scolaire qui a suivi le collège très, très linéaire. J'ai hésité, changé de voie, fait des choses différentes. On m'a souvent dit que je me trompais, justement, d'arrêter, de recommencer autre chose, de faire ces choses-là. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça forcément, c'est pas ça. Mais c'est important de se poser les bonnes questions, mais de ne pas aller dans un mur, dans quelque chose qui ne va pas nous épanouir non plus. Maintenant, on rentre en école d'ingénieur avec prépa intégrée. L'idée, c'est de valider ces années. Donc, il faut garder à l'esprit que rien ne nous empêche demain de changer de voie, de changer de métier. J'ai arrêté mes études il y a un certain temps, j'ai déjà fait des métiers très différents. Je me retrouvais sur les quais de Seine l'été dernier pendant les Jeux Olympiques, bien différent que d'être au collège Édouard Herriot à faire de la comptabilité, et encore différent que de monter un événement de nuit pour 12 000 enfants. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'il faut croire en ses projets, croire en ses rêves et se donner les moyens. En revanche, rien ne nous arrive par magie. C'est à chacun de se donner les moyens, de se battre et de travailler dur pour avoir ce que vous souhaitez.
Nous allons maintenant conclure cette émission.
Merci d'avoir apporté votre témoignage et d'avoir répondu à nos questions avec autant de gentillesse.
C'était Paroles d'anciens sur votre web radio préférée, RIO Radio, la radio du collège RIO. Au revoir à tous.